Eh bien, salutations à tous, à toutes et à tous. J'ai choisi dans l'Épître aux Hébreux, puisque, en fait, c'est l'Épître que nous avons reprise en étude biblique, donc le mercredi soir et puis jeudi après-midi. Alors, je vais prendre le chapitre 3, verset 5, jusqu'au chapitre 4, verset 2, un message qui n'est pas essentiellement différent de l'introduction de notre frère, vous allez le comprendre. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison c'est nous. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Le jour de la tentation dans le désert où vos pères me tentèrent pour m'éprouver et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi, je fus irrité contre cette génération et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse, et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert? Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Un passage assez solennel, un passage de rappel, d'avertissement, où il est question avant tout d'une parole qui est annoncée, qui a été annoncée. Rien ne serait venu comme exhortation et comme invitation à avoir la foi, à avoir confiance, à marcher, s'il n'y avait pas eu d'abord cette parole annoncée. Et ici, l'apôtre mentionne d'abord Moïse, qui a été celui qui a annoncé la parole de Dieu en premier, et il l'a annoncé à un peuple en particulier, dans une circonstance particulière. Et puis, l'apôtre fait également mention de Jésus. Jésus qui était celui qui dit au tout début de ce livre, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Jésus qui est venu comme parole vivante de Dieu, comme celui qui nous donne la parole de Dieu de façon définitive, qui ne parle pas seulement pour les choses de cette terre, pour un temps sur cette terre, mais qui nous parle pour l'éternité et pour les destinées célestes. C'est Jésus dont il est question, c'est lui qui parle, et c'est parce qu'il a parlé que nous sommes appelés à écouter, à entendre. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. aujourd'hui si vous entendez. Ça ne veut pas dire aujourd'hui si la parole parvient à vos oreilles et puis arrive jusqu'à votre cœur. À partir du moment où elle arrive à vos oreilles, nécessairement vous l'entendez. Cette parole vous est annoncée. Donc à partir du moment où elle vous est annoncée, vous êtes redevable de cette parole. Vous avez à lui répondre à cette parole. Il n'y a en fait qu'un seul enjeu là-dedans. Ce n'est pas le fait que vous entendiez ou non la parole de Dieu, vous l'entendez. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore entendue, bien tout simplement aujourd'hui, vous l'entendez. Et à partir de ce moment-là, ce qui compte, l'enjeu, c'est l'état de votre cœur. Qu'est-ce qui se passe dans votre cœur au moment où vous entendez la parole de Dieu donnée par Jésus? Ceux qui l'ont entendu dans le désert, ils l'ont entendu par Moïse, de façon partielle, mais suffisamment précise pour qu'ils aient eux aussi à se déterminer et pour qu'elles révèlent ce qu'il y avait dans leur cœur. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? Qu'est-ce que Dieu a trouvé dans leur cœur? Les termes, c'est endurcir, cœur qui s'égare, tenter Dieu, cœur mauvais et incrédule, révolte, désobéissance. Voilà ce que Dieu a trouvé dans leur cœur. De sorte que la parole qui leur était adressée, qui était un commandement, mais qui était aussi une promesse, nous le voyons plus loin, une promesse de repos, d'entrer dans un repos, cette parole n'a pas pu avoir son effet dans leur vie. Ils ont manifesté un cœur d'incrédulité, un cœur de révolte face à la promesse qui leur était faite. Et en réalité, il y a un terme ici qui définit la raison fondamentale pour laquelle ils n'ont pas cru, ils n'ont pas voulu obéir. Ils se sont révoltés, c'est la séduction du péché. Nous sommes prévenus par l'apôtre contre la séduction du péché. Aujourd'hui, afin qu'aucun ne s'endurcisse par la séduction du péché. Il y a dans notre cœur une disposition qui nous attire vers le péché, vers une vie qui est une vie de sécurité charnelle, d'idolâtrie, de folie, de dérèglement, toutes ces choses qui se manifestent dans le monde, eh bien, elles sont là à nous séduire, à tenter de nous séduire, et elles nous séduisent très facilement. Plus loin dans cette même épître, au chapitre 11, le 12, pardon, « Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. » Nous sommes soumis à cette tentation du péché, à cette séduction du péché qui prend de multiples formes, mais en tout cas qui a un seul objectif, c'est de nous détourner de Dieu, de nous détourner du Dieu vivant, des dieux morts, des idoles. On peut s'en faire toute une série et s'y plaire, et elles ne vont pas déranger notre vie, et tout va aller très bien avec ces idoles, mais elles ne vont pas nous sauver. Celui qui nous appelle, celui qui nous parle, c'est le Dieu vivant. Et comment savons-nous qu'il est vivant? Parce que lorsque même on l'a mis à mort, il est ressuscité. Jésus-Christ est vivant éternellement. Jésus-Christ est mort. Oui, il a été mort. C'est le passage du feuillet de calendrier aujourd'hui. J'ai été mort, mais je suis vivant pour l'éternité, pour les siècles des siècles. Nous avons affaire au Dieu vivant. Et forcément, avec un Dieu vivant, nous avons une vraie interaction, une vraie relation qui doit se nouer. Et dans ces relations, eh bien, il y a notre cœur, notre âme, notre intimité qui est dévoilée. Et là, nous devons accepter ce regard de Dieu, car sur nos cœurs, un peu plus loin dans le passage que je vous ai lu au chapitre 4, donc le verset 12, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Voilà ce qui se passe lorsque nous sommes en relation avec le Dieu vivant, avec sa parole. Nous ne sommes pas à la surface des choses, nous ne sommes pas à la surface de notre conscience, nous sommes au cœur de notre cœur, au cœur de notre vie, au cœur de nos pensées, au cœur de nos sentiments, au cœur de nos émotions, au cœur de nos motivations. C'est jusque-là que Dieu va. Alors il y a ce péché qui nous séduit, mais il y a un remède. Il y a un remède que présentent tous les hommes de Dieu depuis le commencement, les hommes de foi. Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, David, et puis ensuite ceux qui du temps de Jésus se sont attachés à lui. Le remède, c'est la foi, la confiance en cette parole qu'il nous donne. Et c'est cela que, ici, puisque l'apôtre s'adresse à des personnes qui ont déjà reçu, c'est cela qu'il exhorte à ne pas abandonner, à garder donc la ferme confiance, l'espérance, la foi, l'assurance que nous avions au commencement, lorsque cette parole est venue à nous, qu'elle nous a éclairé sur la grandeur de l'amour de Dieu envers nous, sur la justice de Dieu, sur sa façon de résoudre ce problème insoluble qu'était notre relation complètement perdue avec lui, en donnant son propre Fils, en nous offrant un pardon inconditionnel. Et cela dès le départ, pour ceux qui cherchent un salut, pour ceux qui cherchent une délivrance, voilà que ça leur parle à leur cœur. Et bien c'est cela que l'apôtre nous demande de ne pas abandonner, de ne pas délaisser cette première réaction à la bonté, la justice, l'amour de Dieu qui nous est offert en Jésus-Christ. Qu'est-ce qui s'est passé pour le peuple d'Israël en Égypte? Ils étaient esclaves. Le Pharaon les dominait, les rendait malheureux. Et Dieu est allé les chercher. Gracieusement, ils ne pouvaient rien faire. Ils s'étaient mis, on peut dire, sous cette domination, d'une certaine manière par inadvertance, parce qu'ils avaient besoin à l'époque d'être secourus parce qu'il y avait une famine, et puis ils étaient allés jusqu'en Égypte. Mais Dieu avait préparé ces choses-là. Mais les voilà qui s'étaient retrouvés sous la domination de ce tyran, de ce pharaon qui se prenait lui-même pour une divinité. Et ils ne pouvaient plus rien faire pour se sortir de là. Et Dieu est allé les chercher. Dieu les a délivrés. Dieu leur a demandé simplement de faire confiance à celui qui leur envoyait, Moïse, et que par sa puissance, toute chose serait bonne pour eux. Ils l'ont fait déjà au tout début avec beaucoup de réticence, Parce que quand Moïse est allé vers eux, premièrement, ils ne l'ont pas cru. Premièrement, ils ont refusé de le considérer comme étant celui qui pouvait les délivrer. Mais Dieu les a convaincus. Et Dieu a fait agir Moïse. Il lui a donné cette puissance pour les arracher à la domination du Pharaon. Et au prix de la mort des premiers-nés d'Égypte et du sacrifice d'un agneau pour les Israélites, il les a sortis de là. Il les a fait passer la mer Rouge et il les a amenés au désert. Et là, au désert, plutôt que de dire « Oui, ce Dieu si grand, si puissant, si miséricordieux qui est venu nous chercher là où nous étions esclaves, ce Dieu-là, nous pouvons lui faire confiance pour les promesses de la vie à venir ?» Eh bien non. Ils ont commencé à réagir sur des choses matérielles, sur des choses présentes. Ils ont commencé à protester, ils ont commencé à murmurer, ils ont commencé à se révolter contre Moïse. Et en permanence, et cela, pendant 40 ans, ils n'ont pas cru à la promesse que Dieu leur faisait. Ils ont manifesté leur cœur d'incrédulité. Eh bien, certains, par contre, parmi eux, ont eu une attitude différente et ont tenu ferme dans la foi à celui qui les avait délivrés. Et c'est ce que l'apôtre nous appelle à être, des hommes et des femmes de foi. Des hommes et des femmes qui, quand ils considèrent ce que Jésus-Christ a fait pour eux, en se donnant en sacrifice à la croix, en venant dans ce monde, en accomplissant les miracles de sa grâce, et en étant accusé, crucifié, mis au tombeau, et enfin ressuscité par Dieu, leur a accordé une véritable délivrance, un véritable salut. Et qu'à partir de ce moment-là, peu importe tous les aspects, tous les éléments de la vie présente, ce qui compte, c'est que ce Dieu qui a fait cette œuvre dans le passé, dans la personne de Jésus, la fera à nouveau dans l'avenir pour une vie totalement sauvée, parvenue à la perfection, une vie où le mal n'existera plus, une vie où il n'y aura plus aucune sorte de séparation entre Dieu et les hommes, la vie du royaume qui est proposée. Donc le remède est donc cette ferme confiance, cette assurance, cette foi, cette espérance qui sont fondées sur la promesse de Dieu et sur le fait que dès maintenant, par la puissance du Saint-Esprit, nous sommes devenus, dit l'apôtre, participants de Christ. Nous ne sommes plus étrangers à Jésus-Christ. Nous sommes devenus participants de Christ. Une partie de lui, parce que lui est devenu une partie de nous. Nous avons trois autres textes, d'ailleurs, je vais vous lire dans la première aux Corinthiens, chapitre 1, verset 30. C'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous, sagesse, justice et sanctification et rédemption. Voilà ce que Jésus a été fait pour nous. Et maintenant, nous-mêmes, au chapitre 6, verset 17 de cette même épître, nous lisons « Ainsi donc, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Maintenant, par la grâce que Dieu nous fait de la rédemption et de ce que Jésus est devenu pour nous, nous pouvons devenir un avec lui. Et l'apôtre Pierre aura aussi cette formule, chapitre 2 de sa sur sa deuxième épître, chapitre 1, verset 4. Alors je prends quand même au chapitre 3, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. Voilà ce qui est offert. Voilà la nouvelle réalité dans laquelle vit le croyant. Il n'est plus devant Dieu seulement, il n'est plus... Dieu n'est pas seulement à côté de lui. Nous entrons en union avec Dieu par Jésus-Christ. Nous devenons participants de la nature divine. Nous devenons participants de Christ. Et comme le dit l'apôtre sous une autre forme, nous devenons membres de son corps, chacun pour notre part. Voilà la nouvelle réalité qui est pour nous, pour ceux qui croient. Alors, l'apôtre poursuit, c'est pourquoi tant qu'on peut dire aujourd'hui, tant qu'on peut dire aujourd'hui, veillez à ce qu'aucun d'entre vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. En donnant Jésus-Christ, Dieu a établi un nouveau jour, un jour de salut, un jour de grâce. Et pour vous, tant que c'est aujourd'hui, vous avez cette possibilité de saisir les promesses de Dieu, de recevoir par la foi le salut, de devenir participant de la nature divine. Et tant que les jours passent et qu'on peut dire aujourd'hui, il est toujours possible pour chacun d'entre nous de saisir cette grâce du Seigneur. L'aujourd'hui du repos de Dieu. Si je poursuis la lecture au verset 3 du chapitre 4 jusqu'au verset 11. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Selon qu'il est dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde, car il a parlé quelque part ainsi du septième jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car cette parole se trouve dans un psaume de David, qui a vécu, bien entendu, bien longtemps après ceux du désert avec Moïse, bien longtemps après Josué. Et à un moment donné, Dieu fait à nouveau résonner sa parole. Vous n'avez pas joui du repos à ce moment-là, mais aujourd'hui, cela est possible. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et cet aujourd'hui a pris pleinement effet lors de la mort et de la résurrection de Jésus, et par l'envoi des apôtres pour prêcher la bonne nouvelle dans le monde entier. Chapitre 6, versets 11 et 12, nous lisons encore. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, de sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Il y a la promesse qui nous a été faite à tous, de recevoir le repos par la foi en Jésus-Christ, et chacun personnellement, nous héritons de promesses particulières lorsque nous faisons cette démarche de foi. Alors il y a, et là je voudrais insister là-dessus, exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, exhortez-vous les uns les autres. Devons reconnaître, chacun pour notre part, notre propre faiblesse et savoir que nos frères et sœurs aussi, même dans une foi sincère, sont dans une faiblesse également. Et que nous avons absolument besoin, ensemble, de nous exhorter, de nous inciter à garder la foi que nous avions au commencement. Nous sommes tellement soumis à une pression du péché, il y a tellement de, une organisation sociale, spirituelle autour de nous qui s'oppose à cette foi en Jésus-Christ et cette confiance en son œuvre parfaite qui se conclura à son avènement, il y a tellement de pression que nous devons lutter ensemble pour maintenir cette foi, pour maintenir l'espérance, pour maintenir l'assurance, et que tous puissent être gardés et finalement sauvés par ces promesses. Je terminerai au chapitre 10, versets 21 à 25. Nous avons justement des prolongements concrets à cette exhortation mutuelle. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Parce que ce jour de salut va se conclure par un jour de gloire qui est annoncé, le jour de l'avènement de celui qui a donné sa vie pour nous, de celui qui a accompli l'œuvre en notre faveur. Et l'histoire, on peut la voir dans les deux sens. On peut la voir comme un temps qui s'étire à partir donc du début et dont on ne connaît pas la fin, mais on peut aussi la voir comme un temps qui nous rapproche de ce jour où les promesses de Dieu vont trouver toute leur plénitude par l'avènement qui est promis. Et c'est cela que nous devons garder comme pensée, comme vision. Le jour de la délivrance approche. Il y a une délivrance passée par l'expiation du péché à la croix du calvaire, et il y a une délivrance à venir par l'avènement du Fils de Dieu qui est promis. Le peuple d'Israël avait, lui, une délivrance passée avec le passage de la mer Rouge, et puis il avait devant lui l'entrée dans le pays de Canaan, et c'est entre les deux qu'il a été troublé, qu'il a eu toutes ses faiblesses et même ses révoltes, qu'il n'a pas tenu le choc, on peut dire, pour une bonne part d'entre eux, hein, de la persévérance jusqu'à pouvoir entrer dans le royaume promis. Et bien pour nous, nous sommes exactement dans la même situation qu'eux, sauf que nous avons un sauveur qui a accompli l'œuvre parfaite, des promesses plus excellentes, une perspective non pas de royaume terrestre, mais de vie éternelle avec notre Seigneur. Amen.